ne faut en aucun cas laisser les gouvernements écrire seuls l'histoire.
Avril 1916, les Pâques sanglantes en Irlande.
Les meneurs du soulèvement de 1916 étaient réalistes. Ils soupçonnaient le Royaume-Uni d'utiliser les Irlandais comme chair à canon, et ils étaient persuadés qu'ils n'obtiendraient rien. Ils ont donc planifié une insurrection le dimanche de Pâques, finalement reportée au lundi de Pâques 1916. Un millier de républicains se sont emparés de Dublin. Après une semaine de combat contre l'armée britannique, ils ont été vaincus.
Du haut du perron de la poste centrale, prise d'assaut, faute de mieux, et en haut de laquelle flotte soudain un drapeau tricolore inconnu des passants, le poète Pascal Pierce proclame la République. L'essentiel de l'insurrection tient dans ce texte qui en appelle à la vocation sacrificielle des Irlandais et aux générations mortes qui ont tant souffert d'une situation coloniale. L'événement ne pouvait que tourner court. Les Dublinois écoutaient Pierce d'une oreille, mais ils étaient plus médusés que favorables, ou bien ils disaient leur hostilité. Les nationalistes constitutionnels, qui étaient prêts d'obtenir un régime d'autonomie, avaient promis la loyauté à l'Empire britannique en guerre. Ils avaient recommandé aux jeunes hommes de s'engager. Plus de 200 000 volontaires étaient partis sur le continent. Et des insurgés, qui étaient à peine un millier, choisissaient l'autre option, sollicitaient l'aide des Allemands et en plus étaient trop mal organisés pour la réceptionner quand elle survenait. De l'improvisation à la trahison, les motifs de critique n'ont pas manqué contre les rebelles. Si on compare aux autres événements militaires de 1916, les Pâques sanglantes ont la dimension d'une tête d'épingle, mais les disparus pèsent d'un poids particulier. C'est en leur nom que beaucoup vont mourir. Des générations durant, ils ont participé à un événement plus mystique que politique. C'est, toute proportion gardée, le 1789 des Irlandais qui ouvre sur un nouveau temps et est sans cesse réinterprété.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Christophe Gillissen, bonjour.
Bonjour.
Vous enseignez les études irlandaises à l'université de Caen. Vous avez publié aux presses universitaires de Caen un livre sur la relation entre les Britanniques et les Irlandais que vous qualifiez d'unique. C'est quand même juste de dire qu'elle était coloniale avant l'époque de libération que nous allons évoquer ensemble.
Alors, les historiens ont des avis souvent divergents sur cette question, mais il ne fait aucun doute que lorsque l'Irlande est annexée en 1800 par la Grande-Bretagne, pour fonder le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, c'est une décision qui est imposée aux Irlandais contre leur volonté. Il faudra que le Premier ministre britannique sorte beaucoup d'argent pour soudoyer les députés irlandais pour que ce projet de loi passe au Parlement. La décision est contestée et dès le début de l'Union, il y aura de manière régulière des mouvements de contestation, des rébellions qui vont ponctuer toute la période de l'Union et qui vont culminer en 1916.
Le contentieux porte sur la place de l'Église catholique. Là, les Britanniques donnent du jeu aux Irlandais au long du XIXe siècle.
Oui, tout à fait. Il y a des concessions qui sont proposées par Londres. Par exemple, l'Église catholique, en 1845, se voit accorder un séminaire, le séminaire de Maynooth, au sud de Dublin, où les futurs prêtres seront formés. Et ce séminaire reçoit des subventions gouvernementales. Donc il y a des concessions qui sont faites, mais souvent ces concessions arrivent trop tard et ne suffisent pas à remporter l'adhésion des Irlandais à l'État britannique.
Le contentieux porte sur la propriété foncière. Les landlords envoyés par Londres, grands propriétaires terriens, ont confisqué beaucoup de domaines où ils ont construit des villas palladiennes et de superbes châteaux. Voici comment se comporte l'un d'eux. C'est un film américain avec Tom Cruise dans le rôle du jeune héros qui voit son père enterré. Et au moment de l'enterrement, surviennent les séides du landlord, du grand propriétaire, qui vont poser l'avis de retard de paiement sur le cercueil, et puis ce n'est que leur première brutalité.
Écoutez-moi bien. Je représente Monsieur Daniel Christie, qui par force de loi est propriétaire de cette terre et de tous ses aménagements. Qui est ce mort qu'on enterre ? Qui est ce mort qu'on enterre ?
Ne leur dites pas un mot. Ce pays est le nôtre. Eux, ils n'existent pas.
Le fermage de ce domaine n'est toujours pas payé, malgré trois avertissements. notre maison, les charognes.
Et Tom Cruise va se rebeller. D'ailleurs, beaucoup de fermiers, titulaires de minuscules parcelles, victimes de la grande famine de 1845, sont passés aux États-Unis. C'est à cause de la question rurale que le lobby irlando-américain va fonctionner.
C'est un phénomène majeur dans l'histoire de l'Irlande et de la Grande-Bretagne, et des États-Unis d'ailleurs. Cette émigration débute dès le XVIIIe siècle, il y a beaucoup de protestants alors. Au XIXe siècle, ce sera une émigration essentiellement catholique, parce que effectivement, en Irlande, il y a des discriminations d'ordre politique, d'ordre religieuse, et il y a ce problème lié à la terre, qui est un des fils conducteurs de l'histoire de l'Union. Effectivement, beaucoup de catholiques ne possèdent pas leurs terres ou alors l'exploitent, mais peuvent être expulsés du jour au lendemain. Ils n'ont aucune sécurité. Le propriétaire peut augmenter le loyer comme il l'entend, sans préavis. Et donc, notamment au moment de la grande famine, 1 million de morts quand même, hein, ce n'est pas rien en l'espace de 5 ou 6 ans, cette émigration, qui était un phénomène significatif, mais bon après tout, à partir de 1845, c'est un véritable flot d'émigrés. Entre 1845 et 1851, plus d'1 million d'Irlandais quittent le pays. C'est énorme. Et cette émigration va durer jusqu'à la fin de la période de l'Union, essentiellement dirigée vers les États-Unis.
Et ceux qui restent peuvent se révolter contre les propriétaires. Et quand le propriétaire s'appelle Monsieur Boycott et qu'il imagine d'expulser un autre Tom Cruise, il invente un mot.
Absolument, absolument. Cette solidarité entre agriculteurs, entre paysans, se manifeste de différentes manières. Il y a des ligues agraires qui se forment pour revendiquer des droits. Il y a des organisations clandestines qui vont abîmer les bâtiments ou le cheptel du propriétaire. Et puis, c'est ces phénomènes de boycott où un agent d'un propriétaire terrien se retrouve mis au banc de la société. Personne accepte de lui parler, de travailler pour lui, de lui vendre quoi que ce soit.
Là aussi, les Anglais laissent un peu de jeu dans la fin de la période qui nous concerne, un peu avant la guerre de 14, donnant la possibilité aux paysans d'acheter leur lopin grâce à un emprunt contracté auprès de l'État. La revendication politique, elle est forte depuis que le Parlement d'Irlande, au moment de l'Union de 1800, a été supprimée. Et le gouvernement de Londres, là aussi, commence à jeter du lest, notamment parce que les députés irlandais sont nombreux, et 86, 93, 1911, 1912, il y a qui s'ouvre la perspective d'un home rule, d'un gouvernement autonome pour les Irlandais.
C'est ça, c'est exactement ce qui a été fait en Écosse tout récemment, hein, la création d'un Parlement écossais en 1999. C'est une manière de répondre. Alors il faut comprendre que les Irlandais se votent massivement pour leur grand chef Charles Parnell, donc qui négocie les premiers projets de loi en 1886 et 1800. Et il est
soutenu... un nationaliste constitutionnel.
Absolument. Mmh. Encore qu'il savait jouer de l'ambiguïté et faire comprendre au gouvernement britannique que faute de concessions, d'autres méthodes pourraient être choisies. Donc il y a un vote massif pour Parnell. Le gouvernement de Londres comprend que des concessions sont nécessaires. Simplement, le projet de loi en 1886 est rejeté par le Parlement britannique. En 1896, il est rejeté à nouveau par la Chambre des Lords. En 1912, il semble que enfin cette autonomie irlandaise sera accordée.
Cependant, l'Irlande aux Irlandais, oui, mais quels Irlandais ? C'est qu'il y a, au nord, des Irlandais beaucoup plus riches que ceux du sud, Belfast,
effectivement.
Et des Irlandais très protestants.
Tout à fait. Le recensement de 1911 montre qu'environ 27% de la population s'identifie comme protestante, et la grande majorité de ces Irlandais protestants, d'origine écossaise ou anglaise, hein, mais ils sont devenus Irlandais au fil des siècles, refusent à tout prix de devenir une minorité sous l'autorité d'un parlement irlandais, majoritairement catholique. Donc, dès 1886, ils tentent de s'organiser pour résister à ces projets, et leur organisation, leur mobilisation prend une ampleur tout à fait considérable. En 1912, lorsqu'ils comprennent que le projet de loi sera adopté tôt ou tard...
Ils appellent ça « Rome Rule ».
Tout à fait. Et il faut comprendre qu'à l'époque, l'Église catholique avait effectivement une vision assez théocratique. La liberté de conscience, des choses comme ça, étaient secondaires. Donc ils craignent, si vous voulez, de devenir une minorité sous un gouvernement catholique qui serait inféodé à l'Église, et un gouvernement qui légiférait, par exemple, pour interdire le divorce, pour mettre en œuvre les enseignements de l'Église catholique. Ils s'y refusent. Et leur mobilisation est efficace, intelligente. Ils s'associent par exemple avec l'opposition britannique, les conservateurs. Et en 1912, il y a cette grande journée le 28 septembre, le Ulster Day, où près de 500 000 protestants signent une pétition expliquant qu'ils refusent le Home Rule, que si nécessaire, ils auront recours à la force pour s'y opposer. Donc, ils menacent de provoquer une guerre civile. Et certains iront jusqu'à signer cette pétition dans leur propre sang.
1914 modifie complètement la donne, le Home Rule qui n'était encore que projet, mais qui allait être promulgué. Le roi avait signé et suspendu aussitôt, puisque la guerre a éclaté. Les nationalistes constitutionnels disent « on est loyaux, on va vous envoyer » des volontaires catholiques. Il y a des volontaires catholiques, comme il y a des volontaires protestants, il y en a quoi, 200 000 qui vont combattre sur le sol français. Par exemple, la bataille de la Somme, ou qui vont combattre dans les détroits contre l'armée turque. Une petite minorité de nationalistes catholiques disent « Ah, l'Angleterre est en difficulté, c'est une opportunité pour nous et nous les liens avec les Allemands ».
Oui, tout à fait. Ils sont très minoritaires. Il s'agit d'ailleurs d'une organisation essentiellement clandestine. C'est la Fraternité républicaine irlandaise qui existe depuis plusieurs décennies. Et il y a en Irlande effectivement deux courants, deux traditions. Il y a le nationalisme constitutionnel, majoritaire, et ce nationalisme révolutionnaire. Et en 1916, ils pensent comprendre que le moment, l'occasion unique se présente pour un coup d'éclat, pour une insurrection. Il faut dire aussi que la décision des nationalistes constitutionnels de soutenir la Grande-Bretagne dans la guerre en 1914 semblait judicieuse. Arrivée en 1916, cette guerre s'éternise et ils commencent à se dire « la guerre ne finira pas, nous n'aurons jamais le Home Rule ».
Les Allemands entendent cet appel du pied. On voit non pas encore des renforts, mais du matériel que les insurgés sont plus ou moins capables de récupérer parce que leur organisation manque un petit peu de réalisme. Ce sont des poètes qui sont à la tête de cette révolte, notamment Pascal Pierce qui proclame la République. Voici l'interprétation qu'on a eue plus tard, le grand écrivain de théâtre Cino Casey.
La prison ou l'indépendance de l'Irlande ?
Le sang ou l'indépendance de l'Irlande ?
L'indépendance de l'Irlande ou la mort ?
Dieu nous aide !
Dieu nous aide !
Vive l'Irlande libre ! Vive la République irlandaise ! Vive la République indépendante !
On s'occupe de mettre le nez dans la rue au Connell. Et outilleurs, ça brûle !
Mais faut dire que ça brûle ! On a vu les lanciers !
Oui, qui prennent la tête en l'air ! Ils font saigner leurs sabres et leurs éperons, ils agitent leurs lances d'un air de hier, ou qui sont ces pourmeux qu'on les assicote un peu ! Et voilà tout à coup qu'une salle partie du bureau de poste en étant la moitié par terre, et que le reste se débine en se demandant s'ils trouveront jamais une planque sûre ! Et voilà que le général Pierce sort avec son état-major et qui se met à lire la proclamation en pleine rue !
Mais quelle proclamation ?
Citoyens, la République irlandaise !
Alors, vous êtes contents à présent, hein ? Vous voilà bien procédé. Ben, pourquoi est-ce que vous n'allez pas prendre vos flingues puisque vous êtes des hommes ? Toto, prends ton flingue, Toto, prends ton flingue, ta-ta-ta-ta-ta ! Ta-ta-ta-ta-ta !
Cette femme qui se moque d'insurgés qu'elle considère comme des personnages de pacotille, c'est une femme dont le mari est au front et qui n'a donc pas le même point de vue sur la conduite à tenir. Philosophie sacrificielle pour les meneurs qui savent, qui devinent qu'ils ne vont pas gagner, mais qui sont des personnages hauts en couleur. Alors il y a cet anglais Casement.
Oui, alors
qui est l'objet d'un récent livre de Vargas Llosa, qui est un personnage extraordinaire.
Extraordinaire, c'est le mot. C'est un diplomate britannique né en Irlande, protestant, qui a mené des enquêtes au Congo belge où il a dénoncé les conditions absolument infâmes où travaillaient les indigènes. Ensuite, il s'est rendu en Amérique latine, a également dénoncé les conditions dans les plantations, etc.
C'est un anticolonialiste.
Tout à fait, et il a été décoré par la monarchie, cet Sir Roger Casement, en raison de ses services rendus pour la cause des droits de l'homme. Et il va transposer cette grille de lecture à ce qu'il se passe en Irlande. Il va prendre fait et cause, et comme il voyage beaucoup, il a eu l'occasion de nouer des liens aux États-Unis et en Allemagne. Et il va donc tenter de recruter des Irlandais qui ont été faits prisonniers par les Allemands en Allemagne pour en faire une sorte de brigade irlandaise. Et il va demander des armes. Mais les armes, effectivement, seront interceptées.
Il arrivera en sous-marin, peut-être d'ailleurs pour dissuader les rebelles d'intervenir trop tôt. Il sera arrêté, il fera partie des morts de la répression de l'insurrection que chante ici un chanoine qui, en 1919, a écrit « Foggy Dew, la rosée brumeuse ». Ils avançaient fièrement dans la ville de Dublin. Ils arboraient le drapeau de guerre avec dignité. Oui, on avait fabriqué le drapeau tricolore à l'image d'un drapeau tricolore qui avait été conçu en 1848 à Paris par quelques Irlandais exilés. C'était quand même mieux de mourir sous le ciel irlandais qu'avec ces Indes britanniques qui nous ont conduits à Suvla, à Saddlebar, c'est-à-dire des lieux de combat dans la presqu'île de Gallipoli.
As down the glen one nears the morn to a city fair o'day, there Ireland's lines of marching men in squadrons past me by. No pipe did hum, no battle drum, it sounded slow, a tattoo, but the angels fell on the lippies well, hang out in the foggy dew. Right proudly high over Dublin town, they flung out the flag of war. T'was better to die neath an Irish sky than the Sulor Saddlebar. And from the plains of Royal Mead, strong men came hurrying through, while Britannia's sons with the great big guns sailed in through the foggy dew.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Christian Gélissen, l'Irlande vers la liberté. La révolution minuscule des Pâques sanglantes prend une autre dimension après que l'événement a eu lieu à cause de l'ampleur de la répression. Casement, dont vous parliez, est fusillé. Connolly, un grand syndicaliste, est amené sur un brancard devant le peloton. Les Anglais sont assez habiles pour fabriquer des martyrs irlandais. C'est une constante hein, aussi de l'histoire de l'île. Avril 1918, le Premier ministre Lloyd George, qui voit qu'on manque d'hommes dans un moment décisif de la Grande Guerre, dont on ne pense pas qu'elle va finir si vite, lance la conscription obligatoire pour les Irlandais. Et le chanoine qui a composé cette chanson-là, comme toute l'Église catholique, il se dresse contre la conscription.
Oui, il y a un moment toute la nation irlandaise, en tout cas les nationalistes, je ne parle pas des unionistes, se fédère dans cette opposition à la conscription. Tous les clivages, toutes les divergences disparaissent. L'Église, les dirigeants politiques, les syndicalistes, toute la population se mobilise contre la conscription.
Et aux élections de décembre 1918, une fois la guerre finie, le Parti républicain obtient 73 des 105 sièges. Alors certains des députés sont prisonniers, quelques-uns vont s'évader, mais aucun n'ira quitter l'Irlande pour rejoindre le Parlement de Westminster et on crée un Parlement irlandais officieux.
C'était dans leur programme électoral, ils voulaient une république irlandaise indépendante et donc ils s'étaient engagés, en cas de victoire électorale, à se réunir à Dublin et à former à nouveau une assemblée irlandaise. Cette assemblée, effectivement, n'était pas au complet, les uns étaient en prison, les autres en cavale, mais ceux qui étaient présents se sont réunis en janvier 1919 et la première chose qu'ils ont faite, c'est de proclamer à nouveau la République.
Alors le roi George V, le gouvernement de Londres, ne l'entendent pas de cette oreille, et pendant deux ans va avoir lieu ce qu'on appelle la guerre anglo-irlandaise. Vous savez, le mot guerre, quand il s'agit de terrorisme et de contre-terrorisme, est-ce le mieux approprié? Les Irlandais, entre 19 et 21, les Irlandais nationalistes, ont tué 405 policiers et 105 soldats. Ça fait une bonne moyenne. Et les Anglais ont constitué des unités contre-terroristes, dont ils ont parfois confié le commandement à des anciens officiers ou soldats de la guerre de 14. Et voici ici, dans une nouvelle de Joseph Kessel, Marie de Cork, une situation telle qu'elle a pu se produire. Un officier qui avait commandé des volontaires sur le sol français pendant la Grande Guerre, le voilà maintenant qui préside un tribunal militaire devant lequel passent ces anciens hommes qui se livrent maintenant au sport d'assassiner les officiers en uniforme britannique.
Qui êtes-vous devenu ? Tous vous m'avez hissé. Et j'étais fier de vous. Mais je ne vous en reconnais plus. Non ! Non ! Pas des soldats ! Des assassins qui ont encore acheté une porte au cœur de la nuit pour abattre dans son sommeil un brave soldat, un chef, le commandant Sheridan, un des pères de notre patrie. Assassin, vous méritez le sort des assassins !
Sheridan était un traître ! Vous tous, vous avez trahi l'Irlande. Vous avez trahi tous ceux qui ont lutté pour que l'Irlande soit libre, indépendante et fière. Vous avez pactisé avec l'ennemi. Mais la liberté ne se marchande pas. La fierté ne se partage pas. L'âme de l'Irlande ne vous appartient pas. Vous ne pourrez jamais la vendre. L'Irlande est contre vous. Et nous sommes contre vous.
Traite-nous d'assassins si tu veux. Mais comment t'appelleras-tu ? Toi, qui vas nous tuer maintenant ?
Vous êtes devant un tribunal militaire. Vous êtes devant des juges.
Nous sommes seulement devant notre mort.
Nous sommes seulement devant notre mort. C'est le langage tout à fait irlandais. Avant, on mourait pour l'Irlande, maintenant on tue pour l'Irlande. Le basculement s'est quand même produit. C'est une période terrible, d'ailleurs.
Oui, il y a cette guerre anglo-irlandaise qui est une guerre très dure, effectivement. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un conflit asymétrique. Une des premières armées au monde, l'armée britannique, et face à elle, l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, qui manque de munitions, qui est en difficulté. Et il y a donc également une guerre souterraine entre les services de renseignement, des exécutions. Une guerre très dure, mais une guerre qui sera finalement moins dure que la guerre civile qui s'ensuivra.
Entre-temps, il y a eu un traité de paix, un traité d'apaisement voulu par les églises, les anglicans comme les catholiques, voulu par le roi, négocié par un leader Michael Collins à Londres avec le gouvernement Lloyd George, accepté peu ou prou et plutôt moins que beaucoup par le leader nationaliste Valera qui était resté au pays, un traité qui dit que c'est un dominion en même temps qu'un État libre. L'Irlande, c'est pas une république. L'Irlande reconnaît le roi d'Angleterre et les Irlandais doivent lui prêter un serment d'allégeance que les hommes de l'IRA ne peuvent accepter. C'est le film de Ken Loach, Le vent se lève, bien connu, film favorable à l'IRA.
Écoutez-moi, on a la liberté à portée de main, on est à ça. On est à deux doigts, mais on n'y est pas encore. Et on va arrêter maintenant ? On ne retrouvera pas cette puissance que je sens dans cette pièce. Elle n'a jamais été aussi forte. Et si nous renonçons aujourd'hui, nous ne retrouverons jamais de toute notre vie cette énergie. Vous m'entendez ? Jamais ! Je demande aujourd'hui à chacun de vous de tenir encore un peu, de ne pas ranger les armes, avant d'être entièrement libéré de la Grande-Bretagne.
Bravo ! Vous souvenez de ça ? Vous vous souvenez de ça ?
Il y a des absents aujourd'hui, mais qui sont présents dans nos cœurs. C'est Kevin, Johnny, Colum, fusillé en prison. Il y a Bonnie, tué d'une balle dans le dos en plein champ. Hayden, torturé et pendu. Mireille, je pourrais continuer toute la journée, mais n'oublions pas Mireille. Il a été battu à mort devant sa propre mère. Et je ne peux pas. Je ne veux pas cracher sur les tombes de nos martyrs en allant prêter un serment d'allégeance à ce foutu roi d'Angleterre.
Retour à la déclaration de 1916, au moment des Pâques irlandaises, nous parlons au nom des morts. Christophe Gillison.
Oui, et ce traité, c'est la confrontation entre l'idéalisme, tous ceux qui ont versé leur sang pour la République, et de l'autre côté, d'un certain réalisme. Michael Collins, qui était l'une des grandes figures de ce mouvement nationaliste, a négocié longuement à Londres et a compris qu'il pouvait obtenir beaucoup, mais il ne pouvait pas obtenir tout. C'est le propre des négociations, il faut savoir faire quelques concessions. Et il accepte ce statut de dominion. Un dominion, qu'est-ce que c'est ? C'est un État, comme le Canada, qui est libre, mais qui fait partie de l'Empire britannique. Et donc, il y a un certain nombre de symboles, la couronne britannique, le serment d'allégeance, mais il comprend que la réalité constitutionnelle d'un dominion aboutira très prochainement à l'indépendance de fait. Donc il accepte, et lorsqu'il revient à Dublin, il est critiqué par Eamon de Valera et d'autres, mais il leur explique, et la phrase est restée célèbre pendant ces débats sur la ratification du traité, cela ne donne pas l'indépendance totale et absolue que nous voulons, mais cela nous donne assez d'indépendance, assez de liberté pour y parvenir.
Enfin, lui, il ne verra pas tout ça parce qu'il sera abattu, sans doute par un de ses camarades, comme tant d'Irlandais plus tard, très vite. Juste un mot, on est en pleine période de centenaire en Irlande, une dizaine d'années de centenaire, ce qu'on ne connaît pas, nous, c'est beaucoup mieux qu'en France, ça bat les records. C'est pas facile de faire la place des morts, des combats, des guerres d'indépendance, et de faire une place symétrique aux morts des batailles du continent, aux 35, 50, 60 000, on ne sait pas bien, morts irlandais sur le front français ou ottoman.
Oui, c'est compliqué. Jusqu'en 1966, par exemple, à l'occasion du 50e anniversaire, la célébration avait été organisée dans un esprit nationaliste. On ne parlait que des insurgés de Pâques 1916. On n'a pas évoqué du tout ceux qui étaient morts sur le front européen ou dans les Dardanelles et ailleurs. Aujourd'hui, à l'occasion du centenaire, l'approche est très différente. C'est lié, bien évidemment, à ce qui s'est passé en Irlande du Nord. La volonté, l'objectif est de proposer une commémoration où chaque Irlandais, protestants, catholiques, morts à Pâques 1916 ou morts aux Dardanelles, soit reconnu et sa place dans l'histoire. Et donc, cette volonté d'inclusion, finalement, est liée, bien sûr, au passage du temps. Aujourd'hui, 100 ans après, les choses sont un petit peu plus apaisées. C'est aussi une volonté de sceller le processus de paix en Irlande du Nord, pour que toute l'île, tous les habitants puissent vivre ensemble et que l'histoire ne soit plus mobilisée par les uns contre les autres.
Les deux grands partis qui dominaient la scène politique en Irlande étaient déterminés par la position de leurs aïeux pendant le conflit, et notamment en 1916. Ce qui est drôle maintenant, c'est qu'aucun des deux partis n'arrive à constituer une majorité autour de lui, et il n'y a plus de gouvernement en Irlande au moment de ce centenaire. Enfin, il n'y a plus qu'un gouvernement qui évacue les affaires courantes. Ça veut dire que les grandes divisions historiques sont peut-être en train de pâlir.
Tout à fait. Il avait été question d'une grande coalition entre ces deux partis ennemis, hein, qui s'étaient plus ou moins battus pendant la guerre civile. Cela ne se fera apparemment pas. Ça aurait été l'occasion, effectivement, de tourner la page sur 100 ans d'histoire.
Merci à vous, Christophe Gélissen. La soirée d'Arte, le livre de l'une de vos collègues de camp chez Talendier, excellente histoire de l'Irlande depuis 1912, les festivités du Centre culturel irlandais, rue des Irlandais, à Paris. L'émission a été réalisée par Hervé Marchand, avec à la technique Lucas Veillant. La préparation, c'était Timothée Fourré, avec Céline Loriou.